Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Pourquoi faut-il manger des carottes pour avoir une bonne vue ? Parce que vous avez déjà vu un lapin avec des lunettes.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Ozone libre numéro 12 sur le principe actif. L'émission qui va vous parler simplement, mais avec des mots compliqués. Rassurez-vous, nous n'avons pas tout compris non plus. Pour vous servir aujourd'hui, Vanessa, Béatrice, François, Jean de la Lune, Cole, Timothée et Didier.
L'émission nous parlera aujourd'hui du handicap. Nous commencerons par une petite mise en bouche avec la lecture d'un texte du Point des mots. L'interview ne sera exceptionnellement pas en direct, mais a été enregistrée pendant les 3 jours de la manifestation Cap à Cap. 3 intervenants ont été interviewés par notre équipe. Isabelle Bachelet pour En route pour les Jeux, Karine Vieira, participante au Rallye des Gazelles, et Roland Vacogne de l'association Heure en Ciel. S'intercaleront les micro-trottoirs, mais aussi, pour le plaisir de nos oreilles, les gazouillis et cascades de mots sans filet de notre poète de la rue, Jean de la Lune. Nous retrouverons l'habituelle petite cuisine d'Ozone libre avec une succulente tarte à la banane chocolat. Enfin, l'atelier du Point des mots précédera la fameuse série Narvalo avec le docteur Lambert.
Je ne voudrais pas crever avant que mes enfants n'aient fini de rêver, que leur avenir ne soit concret. Je ne voudrais pas crever tant qu'ils sont enfants et voir leurs enfants. Je ne voudrais pas crever avant de les avoir mis à l'abri pour le reste de leur vie. Je ne voudrais pas crever pour les voir enfin heureux, pour pouvoir enfin mourir heureuse.
Well, I'll tell you one thing that I know. You don't face your demons down. You gotta grapple them, Jack, and pin them to the ground. The devil may care, maybe God he won't. I better make sure you check on the do's and the don'ts. Crawl up the mountain to reach where the eagles fly. Sure you can glimpse from the mountain top where the soul of the muse might rise. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Then one day I could tell my tracks about the holes in the soles of my shoes. And that's the day I said I'm gonna make the news. And falling back in the garden a day so long ago, somewhere in the memory the sun shines on you, boy. And playing in the arroyos where the American rivers flow, from the Appalachians down to the Delta roads. A man can't think so long, his brain could well explode. The strain's running through the junctions and King Cotton's down the road. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Listen to the country, the nightjar and the bell.
Listen to the night's dreamliner sounding like the wolves of hell. Head for the water, the waters of the cleansing spell. It was always our destination on the express of the ne'er-do-wells. And we rocked through Madison City, man, we didn't even know she was there. And when we hit the boppers in Memphis, Beale Street didn't have no prayer. And I hear punks talk of anarchy, I hear hobos on the railroads, I hear mutterings on the chain gangs. It was those men who built the roads. And if you put it all together, you didn't even once relent. You cast a long shadow, and that is your testament. Somewhere in my soul, there's always rock and roll.
Joe Strummer and the Mescaleros avec le morceau Long Shadow.
L'objectif de Cap à Cap est de changer notre regard sur le handicap. Mais quel est ce regard? Au-delà donc des bons sentiments et du politiquement correct, quelle est la réalité du quotidien d'un handicapé? Travail, sport, vie de famille, sexualité, accessibilité. Pas capable, mais en avant des exemples de réussite d'intégration et d'autonomie. Mais comment nous, simples citoyens, pouvons-nous intervenir pour ces trajectoires, pour que ces trajectoires ne restent pas des exceptions? Nous sommes donc, nous, en effet, nous attendons tous des institutions qu'elles créent des rampes d'accès, des places de parking. Tous ces aménagements nécessaires à l'accès donc des handicapés. Mais comment aider chacun, handicapé ou non, à trouver une place basée sur la fraternité, débarrassée de l'ignorance et des préjugés? Et c'est pour cela que lors des trois jours de Cap à Cap, nous sommes allés voir donc Isabelle Bachelet, organisatrice du projet En route pour les Jeux.
Je suis Isabelle Bachelet, je suis chargée de mission sport handicap au Comité olympique et sportif de l'Eure.
Quelle a été votre expérience sur la route des Jeux?
Au final, j'étais sur la logistique, tout ce qui était organisation des arrivées, également essayer de réunir les élus pour que mon président de l'époque, donc monsieur Jean-Jacques Bachelot et Magali Le Floch, la référente sport et handicap de la jeunesse et sport, enfin de la direction départementale de la cohésion sociale, puisse parler au moment de l'arrivée d'étape avec les élus, les sportifs également. Et le matin, par contre, j'étais quand même sur un tandem également, à piloter notre responsable en communication, Véronique Delaune, qui fait partie de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Et c'est elle qui faisait toutes nos prises de vue, vidéos, photos, etc. Donc elle était derrière et moi je la pilotais en tandem le matin. Et l'après-midi, j'étais plutôt sur le côté logistique, arrivée d'étape, etc.
Quelles ont été vos actions pédagogiques?
En fait, avec la route des Jeux, sont nées des sensibilisations sport et handicap en milieu scolaire. Nous, c'était pour nous une suite logique, enfin, et tout au départ, je dirais même un parallèle logique à la route des Jeux, sensibiliser les gens sur le handicap. Et donc, surtout... pour nous, on s'est dit de mener cette action au niveau des scolaires et du jeune public, puisque ce sont les citoyens de demain. Et voilà. Donc ça a bien fonctionné. Et du coup, on a pu continuer donc grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale, la Commission départementale sport et handicap et l'Éducation nationale, via Véronique Delaune, toujours pour pouvoir entrer dans les écoles et continuer ces actions de sensibilisation.
Êtes-vous des professionnels ou des amateurs?
En cyclisme, moi j'étais une amatrice, puisque je venais du hand, j'ai fait 23 ans de hand, mais dans l'équipe, donc notre capitaine c'était Magali Le Floch, qui est donc référente sport handicap à la cohésion sociale, et Magali est une ancienne cycliste de haut niveau, donc c'est un petit peu de son idée que l'idée est née, en fait, en regardant un Tour de France, en se disant qu'on avait les Jeux paralympiques et olympiques à proximité, elle s'est dit que ça serait pas mal de faire un petit périple, justement pour changer le regard sur le handicap, Voilà, en partant, personnes valides et en situation de handicap, montrer qu'on pouvait pratiquer ensemble et voilà, pratiquer ensemble.
Mais les gens, quand ils vous voient, donc ils vous croient professionnel ou amateur ?
Alors, on s'est entraîné, je dirais, tel des professionnels. On était tous un petit peu amateurs dans le sport au départ, mais on s'est entraîné au même titre que des sportifs, je dirais, presque professionnels, puisque sur une année complète, on a participé à plusieurs et mis en place plusieurs regroupements d'entraînement, que ce soit sur une journée, voire des week-ends, deux jours de suite avec une nuitée, et puis en même temps pour apprendre à se connaître au sein du groupe et créer une vraie cohésion d'équipe, je dirais.
Comment ont réagi les enfants lors de vos interventions ?
Alors, ils réagissent toujours. Là, on commence à avoir... on a sensibilisé déjà 1500 enfants dans le département, donc ça commence à être énorme. Tous les enfants, quand on y va sur les sensibilisations, alors on a un temps en classe où on passe plutôt des vidéos sur les déplacements, par exemple, de Frédéric Hamel, l'un de nos sportifs non-voyants. Ses déplacements en ville pour aller, par exemple, à sa salle de judo. On le voit également sur une séance pédagogique de judo. On voit Lydie Maé amputée d'une jambe sur des séances d'entraînement. Donc, on leur passe différents petits films comme ça, pédagogiques, et ensuite, on est sur des questions-réponses avec les enfants. C'est très, très enrichissant. Les enfants sont hyper spontanés, donc il n'y a aucune pudeur, je dirais, par rapport au handicap, que ce soit la jambe en moins de Lydie, enfin, ou de Gilles. Enfin, c'est vraiment très spontané et très riche pour les enfants comme pour les athlètes qui viennent. Et au final, pour vous dire, on est quand il y a une classe, deux classes dans l'école qui participent, les autres classes, en général, vu les retours qu'il y a des élèves, ont envie de participer et d'avoir les mêmes types de sensibilisation. Donc déjà, pour nous, c'est réconfortant puisque ça marche et ben, on a de plus en plus de demandes. Donc c'est du bonheur. On a envie de continuer et le but pour nous, ça serait de sensibiliser toutes les écoles du département.
Suite à ça, ça va changer l'œil sur les handicapés ?
Je pense qu'on commence à évoluer, que les gens commencent à prendre conscience qu'on peut vivre ensemble, tous avec nos différences, nos déficiences, nos particularités. Je pense quand même voilà, qu'il y a des retours assez intéressants, enrichissants. Enfin, et les gens, je les sens, moi personnellement, hein, sur les sensibilisations, un peu plus sensibles. Et plus sensibilisé au sujet, donc je pense qu'on est en train d'avancer et il est temps en même temps qu'on avance et qu'on change nos mentalités à ce sujet-là.
Pouvez-vous nous dire deux mots sur votre expérience à Londres ?
Ça a été un sacré défi sportif et une aventure humaine au final inoubliable. Les 28-29 personnes que l'on était sur la route des Jeux, ça restera gravé à vie quand on est revenu à Évreux à la fin du périple. On avait qu'une envie, c'était de ne pas se quitter déjà. Donc il y a eu, comme on va dire, la création, même au-delà de l'équipe de la route des Jeux, on s'est dit c'est presque une famille qui était née de ce périple-là. Et à Londres, alors sur les Jeux paralympiques, c'est assez impressionnant. Le site olympique, on pourrait se croire, je dirais, sur l'Euro Disney du sport. Et après, quant aux pratiques et aux athlètes de haut niveau en situation de handicap, c'est impressionnant. Nous, on a eu la chance de voir certaines épreuves de tennis en double. Ben, la finale France-Suède, c'est des vraies chorégraphies avec leur fauteuil. Enfin, ils ont une maniabilité de leur fauteuil assez impressionnante.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le handisport ?
En fait, il existe deux fédérations qui gèrent le handicap. Donc, il y a la Fédération française handisport qui gère plutôt les personnes handicapées motrices et déficientes visuelles. Et en parallèle, on a la Fédération française de sport adapté qui, elle, gère plutôt les personnes en situation de handicap mental et psychique. Et ces deux fédérations-là donc, sont représentées aux Paralympiques. Le sport adapté n'a réintégré que les Paralympiques de cette année, puisqu'en 2000, ils avaient été exclus des Paralympiques. Pour vous dire, par tricherie, en fait, des personnes valides se faisaient passer pour personnes handicapées mentales. Et donc, comme quoi dans le sport de haut niveau avant tout, peu importe valide ou invalide, dès qu'il y a notion d'argent, de compétition, il y a tricherie malheureusement. Et donc c'est ce qui s'est passé sur le sport adapté. Ils avaient donc été exclus mais donc de 2000 jusqu'à 2012. Ils ont pu réintégrer en fait à Londres 2012.
Pourquoi les Jeux paralympiques ne se déroulent pas en même temps que les Jeux olympiques ?
L'organisation serait bien trop lourde vu le nombre d'athlètes et de participants. notamment sur les Paralympiques, au niveau de la logistique. Quand on voit, enfin moi je m'en suis rendu compte sur les Jeux Paralympiques là à Londres, effectivement, quand on voit déjà la logistique pour un athlète en situation de handicap, je parle juste au niveau de l'athlète, le nombre de personnes qu'il faut pour amener la personne, soit pour un lancer de javelot, de poids, pour une course, etc., c'est impressionnant. Donc au niveau logistique, je pense qu'avant tout, c'est pas forcément réalisable ou ça serait vraiment très compliqué de le faire. Alors par contre, ce qui était supposé ou pensé pendant un moment, c'était plutôt que de mettre les Jeux Paralympiques après les Jeux Olympiques, pourquoi pas de les mettre avant, pour créer aussi un petit peu une dynamique avant les Olympiques, en mettant les Paralympiques pour démarrer.
Pour vous, qu'apporte une journée comme Cap à Cap ?
Eh ben, on est toujours dans cette idée de changer le regard sur le handicap et de montrer qu'on peut faire vivre ensemble, pratiquer, parce que demain on sera à nouveau là, donc pratiquer des activités physiques et sportives ensemble, partager, soit en adaptant au niveau matériel, comme j'en parlais tout à l'heure, ou au niveau humain. Voilà, le but c'est de montrer qu'on est là ensemble et qu'on peut le faire. En s'adaptant, en s'adaptant aux compétences et aux capacités de chacun, tout est réalisable, quoi. Il faut y croire.
Pour illustrer cela, nous avons réalisé un micro-trottoir dans la rue.
Si je vous dis handicap, à quoi pensez-vous ?
J'aime ce genre de questions. Handicap aux personnes handicapées, aux personnes handicapées moteurs, déficientes mentales.
Une entraide, et puis voilà, une entraide, et voilà. Il faut s'entraider, il faut aider.
D'accord. À quoi je peux penser si vous me dites handicap ? Je sais pas, j'ai une association qui se bat pour le handicap, pour aider le handicap. Donc je sais pas quoi vous dire sur ce coup-là.
C'est quoi comme association ?
Ça s'appelle Tournons la page.
En tant que citoyen, la vie des handicapés est souvent plus difficile d'accès. Que pouvons-nous faire, nous valides, pour améliorer le quotidien des handicapés ?
Nous valides, influencer les politiques de façon à ce qu'ils puissent faire mettre en œuvre des choses qui puissent rendre service aux handicapés, surtout dans les grandes surfaces ou des choses comme ça.
D'accord.
Ou à l'entrée des immeubles.
Mm-hmm. Au niveau des villes, vous parlez ? Au niveau de l'aménagement, rendre accessible au moins les magasins, les banques, etc., comme c'est déjà fait. Les trottoirs aussi, un petit peu, un minimum plan et puis pas trop de butée, enfin tout un tas d'aménagements pour que les gens en fauteuil roulant, pas forcément en fauteuil roulant, mais pour qu'ils puissent se véhiculer un petit peu, qu'ils puissent avoir accès à un minimum de choses. Après, ça peut être aussi tout ce qui est cinéma, bowling, etc., que tout le monde puisse avoir accès. Voilà.
Je peux être gentil ou méchant ?
Méchant.
Méchant. Être un peu moins individualiste. C'est aussi pour ça qu'on milite, nous. Parce qu'il y a tellement d'individualisme qu'on oublie souvent le handicap de l'autre et le problème en général des autres. Quoi. Comment je pourrais dire ça ? Toujours au niveau du travail, faut respecter l'un et l'autre. Dans son handicap, que ce soit dans la vie active ou maintenant, c'est vrai que le travail, c'est pas évident de trouver pour un handicapé, de trouver le travail qu'il veut faire. Maintenant, je pense qu'il y a des solutions partout. Ils ne sont pas handicapés partout. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent faire. Et puis, les encourager dans ce sens. Faut chercher du travail. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on fait quand même pas. Enfin, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à recruter justement des personnes handicapées, comme la Côte Rep ou les choses comme ça. Donc, je pense que c'est une bonne avancée. Faut continuer comme ça.
Tout de suite, nous retrouvons notre équipe pour l'interview de Karine Vieira, participante au Rallye des Gazettes.
En quoi consiste le rallye des gazelles ?
Alors, le rallye Aïcha des gazelles, c'est un rallye raid dans le désert marocain qui a eu lieu dernièrement, donc en mars. Cette année, c'était la 23e année du rallye. Et c'est un rallye raid de navigation C'est-à-dire qu'on se dirige dans le désert, on a 1500 km de hors-piste à faire dans le désert marocain sous le Haut Atlas, donc sur 8 jours complets avec des étapes, et on a des balises à trouver avec carte et boussole, donc on n'a pas de GPS du tout. Et voilà, on doit trouver nos balises et essayer de rentrer au bivouac le soir.
D'accord, donc il n'y a pas de notion de chronomètre, c'est simplement faire le plus de, enfin, faire le moins de kilomètres.
Voilà.
Donc pour aller d'une étape à une autre.
Tout à fait.
Donc il n'y
a pas de notion de vitesse.
Il n'y a pas de notion de vitesse.
Le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible pour trouver nos balises, voilà, parce que plus on fait de kilomètres, plus on a de pénalités.
D'accord. Pourquoi avoir choisi de participer à ce rallye et que voulez-vous en plus de l'exploit sportif ?
Alors pourquoi l'attrait à ce rallye, en fait, c'était avant tout un défi sportif et personnel. Comme je suis en fauteuil roulant, je voulais un peu défier mon état, le fait que j'ai eu un accident de voiture, pour me mettre en situation et pouvoir piloter moi-même un véhicule, d'être à la tête du véhicule, de pouvoir contrôler, maîtriser moi-même le véhicule dans un environnement hors du commun, donc le désert, la montagne, les dunes, les cailloux, les ergues, les weds, voilà, donc il y avait ce rallye allié tout ça, le fait de pouvoir moi-même, malgré mon handicap et en fauteuil, me rendre dans un endroit qui m'est inaccessible et pouvoir le faire avec un véhicule que je pouvais moi-même piloter et en plus dans le désert.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, le rallye des gazelles ?
Je suis fière d'être gazelle aujourd'hui, fière d'avoir accompli le projet, de l'avoir mené du début à la fin, d'avoir réalisé un de mes rêves, c'est-à-dire voilà, participer au rallye, c'était quelque chose que je voulais depuis quelques années déjà, que j'avais en tête, que j'avais dans le cœur. Donc déjà avoir réussi à m'impliquer, prendre du temps, de l'énergie pour convaincre des sponsors, des partenaires de nous suivre et de nous faire confiance. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir réalisé ce projet-là, et j'en suis ressortie d'autant plus forte parce que c'est un rallye où on se remet beaucoup en question sur place. On réfléchit beaucoup à comment on vit notre petit confort ici au quotidien, parce que là-bas, les populations sont très pauvres. On voit des enfants qui viennent et qui demandent un stylo, un cahier, un bonbon. Donc c'est vrai que ça nous remet beaucoup en question, on prend beaucoup de recul par rapport à notre vie. Et puis on rencontre des gens extraordinaires au niveau de l'organisation, au niveau des autres gazelles. Voilà, tout le monde a des motivations différentes sur le rallye. Tout le monde vient pour des raisons différentes. Moi, c'était oui un défi personnel, humain, sportif. Voilà, et je suis fière d'avoir été jusqu'au bout.
Vous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez en fauteuil suite à un accident de voiture. Mm-hmm. Est-ce que ça a un sens particulier, du coup, de faire des sports automobiles après ça ?
Bah, oui, c'est ce que je disais. Ça, c'est comme un pied de nez, en fait, à l'accident, ouais, de dire c'est moi qui ai le contrôle là, du véhicule. C'est moi qui... Voilà, si je me cartonne, c'est de ma faute. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai eu un accident de voiture que j'ai peur de piloter dans le désert, quoi.
Ouais. Est-ce que ça vous a changé le regard sur la vie ?
Ça a changé le regard sur la vie, je dirais pas jusqu'à ce point-là, mais en tout cas se dire que c'est possible. C'est pas un rallye qui est inaccessible aux personnes en fauteuil. Après voilà, ça fait partie d'une expérience de vie. C'était un choix de le faire, c'était un rêve. Donc oui, contente de l'avoir fait. Après, est-ce que ça a changé ma vie ? J'en suis pas encore à ce point-là, en fait, à me dire ça. Je suis à 3 semaines du retour, donc je dirais pas que ça a chamboulé ma vie du tout au tout, mais c'était une super expérience.
Comment avez-vous été perçu par vos concurrents ?
Je pense normalement, naturellement. En fait, les rapports ont été sains et francs et naturels. Et il y a eu beaucoup d'encouragement. J'irai pas jusqu'à l'admiration, mais beaucoup de filles qui me disaient mais c'est génial ce que tu fais en fauteuil, parce que c'est dur, même pour nous qui sommes valides, c'est vachement dur. Donc toi, de te lancer dans l'aventure et tout, c'est super courageux. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'encouragement dans ce sens-là.
Pour vous, qu'apporte une journée comme Cap par Cap ?
C'est avant tout démontrer que le handicap ne nous empêche pas de réaliser nos rêves.
Trouvez-vous que le regard sur le handicap évolue ?
Oui, ça évolue parce qu'il y a des lois aussi qui font en sorte que le regard évolue, et tant mieux. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'incohérences encore sur les commerces, les administrations, l'accessibilité, le droit au logement, à l'emploi, à la scolarisation. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais heureusement que le regard et la société évoluent à ce sujet. Et aujourd'hui, on en voit de plus en plus des personnes en situation de handicap dans les rues, à mener une vie normale comme les autres. Et je dirais tant mieux parce que on est inclus au même titre que tout le monde, et on n'est pas anormal, on n'est pas des monstres, on n'a pas à rester enfermé, on est immontrable, immontrable. Voilà.
Serge Gainsbourg avec le morceau « Vieille canaille ».
Nous retrouvons maintenant l'interview de Roland Gacogne de l'association Heure en Ciel.
Alors, je m'appelle Roland Gacogne, j'habite Évreux et je suis membre du club de la MJC d'Évreux, le club Heure en Ciel.
D'accord. Et depuis quand existe Handiciel ?
Alors, Handiciel, ça n'existe pas, on va dire. En fait, Handiciel, c'est une action de notre club. Handiciel, c'est le nom du projet qu'on mène depuis 4 ans. Pour répondre à votre question, voilà, ça fait depuis 2009 qu'on a lancé l'activité, le projet Handiciel, qui consiste à partager le vol libre, le parapente, le cerf-volant, avec les personnes en situation de handicap. Mm-hmm. On a fait exprès de ne pas créer une association à part. En fait, c'est l'idée. On veut créer un lieu de rencontre, qui est l'activité vol libre, entre les personnes en situation de handicap et nous, et pas créer un lieu à part.
Combien comptez-vous d'adhérents ?
Alors, au club Heure en Ciel de la MJC, on est 75 adhérents de tout le département.
En quoi consiste le projet d'Heure en Ciel ?
Alors Eurentiel, c'est l'activité, c'est notre club, c'est notre association à la MJC d'Évreux. Et notre projet, effectivement, quand il s'agit d'aller vers les personnes en situation de handicap et leur proposer le parapente, le cerf-volant, tout ça, c'est partager une passion. C'est voler ensemble, c'est aussi vivre ensemble pour se mettre un peu dans les baskets des gens, quoi, et se rendre compte que le handicap, ça pourrait nous arriver, pourquoi pas. Et donc, c'est important de faire ensemble et de vivre ensemble.
D'accord. Quel moyen de propulsion utilisez-vous ?
Alors, on est dans le vol libre, donc on vole sans moteur. Notre moyen de propulsion, c'est la pesanteur, c'est-à-dire la différence de hauteur entre l'endroit d'où on décolle et l'endroit où on pose. Et la vitesse. Alors la vitesse, elle est acquise par la course. Et quand on est avec quelqu'un qui est en fauteuil, on a des assistants qui aident le pilote à courir et à pousser. Le fauteuil décolle comme un avion. Le joker, c'est le treuil. Parce que dans notre plat pays de la Normandie, on n'a pas toujours les grandes collines, hein, elles ne sont pas toujours face au vent comme on voudrait, puisqu'on décolle toujours face au vent. Et donc on a le treuil qui nous permet d'être tracté par un mécanisme qui sera un véhicule, un câble et un système de largage.
Vous parliez des équipages, comment sont constitués ces équipages ?
Alors, on tient compte, comme ça se présente un petit peu, on prend les personnes qui veulent voler, en fait c'est à qui le tour, ça se présente un peu comme ça quand on est sur le terrain. Mais d'abord il y a des rendez-vous qui sont pris bien sûr pour être ensemble au bon endroit. Et puis aussi on travaille sur la question du poids. Parce qu'un fauteuil handi-volant, un fauteuil handicar, ça pèse 17 kg, c'est en acier aéronautique. L'aile peut prendre en charge un certain poids, minimum, maximum, et entre les deux il y a une fourchette. Et donc on regarde qui est le pilote ce jour-là, s'il est lourd. Et il va prendre plutôt un passager léger. Et s'il est léger, il prendra plutôt un passager lourd. Ceci étant, on a plusieurs ailes aussi.
D'accord. Et vous-même, vous avez une formation spéciale ?
Alors oui, important. On ne peut pas s'inventer pilote biplaceur. Déjà, il y a une qualification à la base pour emmener des personnes, quelles qu'elles soient. Il faut passer une formation pilote, brevet de pilote, brevet confirmé. Enfin, tout ça, c'est du temps, et c'est de l'expérience. Et puis des validations fédérales avec la Fédération française de vol libre. Et la Fédération a mis en place une qualification qu'on appelle handicar, qui permet et qui n'est accessible qu'à un pilote biplaceur qui a déjà au moins 100 vols à son actif. Et là, il peut passer cette formation qui le mettra en capacité d'emmener des personnes en situation de handicap.
Quels sont les critères requis pour pouvoir voler ?
La magie de l'activité handicap, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous, on ne demande même pas un certificat médical à quelqu'un qui est en situation de handicap et qui peut voler. Si vous voulez faire une formation et un stage pour apprendre à voler seul, oui, on demanderait là un certificat médical, c'est d'accord. Mais pour être passager, à moins qu'il soit sujet à épilepsie, parce que ça pourrait être un problème en vol, qui chope tout et qui prenne les commandes et qui nous fasse... Bien sûr, c'est pas drôle, pardon, mais non, en fait, il y a juste la volonté, le désir, et à nous, pilotes, assistants, de vérifier que la personne qui veut voler a vraiment cette volonté de voler. Ça m'est arrivé une fois d'emmener quelqu'un qui se sentait un peu poussé par les uns et les autres et tout, et puis qui a regretté d'être en vol et qui était en vol malheureux. Donc on a abrégé, on est allé poser assez vite.
D'accord. Utilisez-vous des équipements, des fauteuils spéciaux pour voler ?
Alors, dès le moment où il s'agit d'une activité handicap, oui. Quoique, j'ai emmené Michael et Jean-Michel, non-voyant complet, hein, non-voyant total, en vol sans fauteuil. Et là, on a fait avec les biplaces habituelles, avec un peu d'assistant pour aider à encadrer la course d'envol, point barre. Et on a très bien volé, et il a même pris les commandes. C'était fort de voir Jean-Michel, tout aveugle qu'il est, piloter le biplace. Moi, j'étais juste derrière, mais j'étais en train de prendre la photo avec la perche, le retardateur, tout sourire. Pas besoin de faire de prière, hein, puisque Jean-Michel, son sens de l'orientation m'a beaucoup épaté. Souvent, quand tu passes les commandes à un passager, au bout de quelques secondes, tu sens un petit peu que, il a envie de te les rendre, les commandes, parce que... Mais lui, non, il les a gardées, mais à un temps pas possible. Enfin, un temps, tout va bien, quoi. Et juste au moment de dire, Jean-Michel, je le guidais, hein, je lui disais à droite, un peu plus à gauche, parce qu'il voyait pas, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est au moment de la prise de terrain et l'approche pour poser que j'ai dit, Jean-Michel, on va aller poser maintenant, est-ce que tu veux bien prendre les commandes ?
Voilà. Pouvez-vous essayer de nous faire partager votre ressenti lorsque vous volez ?
Voler avec une personne en situation de handicap, c'est une charge à la fois très lourde sur les épaules, parce qu'on sent toute cette confiance qu'elle vous remet. Elle s'en remet à vous, parce que si vous faites pas ce qu'il faut, elle pourra pas aider. Même un valide, à la limite, déjà saurait pas quoi trop faire, puisqu'il connaît pas l'activité vol quand il vole pour la première fois. Mais il y a ce cran en plus de confiance de s'en remettre à vous, puisque la personne a une situation quand même de dépendance. Et puis il y a ce défi qu'elle relève avec vous, parce que tu sens, quand t'es pilote et que t'emmènes une personne en situation de handicap, tu sens cette volonté de franchir un obstacle de pesanteur et de lourdeur de la vie qui est différente de d'habitude. Tu sais que ces gens peuvent buter sur un trottoir, peuvent un petit rien dans la vie quotidienne te bloque et te fait buter. Et là, c'est des gens qui veulent voler. Et là, ils veulent relever ce défi de la pesanteur le faire avec elle, c'est un pur bonheur. C'est très fort.
Pour vous, qu'apporte une journée comme Cap à Cap de participer à ces trois jours, et qu'est-ce que ça apporte à la cause du handicap ?
Changer le regard. Il n'y a qu'un mot pour dire ça, c'est se rendre compte, quand on a vu tout à l'heure Karine au rallye des Gazelles, quand on a vu sur la route des Jeux ces personnes en situation de handicap qui roulent et qui vont jusqu'à Londres en vélo depuis ici, mais c'est ça, ça fait bouger les lignes, ça fait se rendre compte que différent comme on est, on peut être capable de relever des défis mais incroyables, quoi. Et c'est fort, ça te donne une pêche pas possible.
Trouvez-vous que le regard sur le handicap évolue?
Ça bouge. Moi, il y a eu plusieurs éditions de Cap à Cap, c'est pas la première fois, mais on sent bien que quand on voit les Jeux paralympiques, quand on regarde l'audition que ça a eu, les Jeux paralympiques, c'est fou là, l'audience que ça a eu à la télé, dans les médias, dans la radio. Donc, je pense que les gens se rendent compte que vivre ensemble et se mettre à la place d'eux, et que tu peux pas, si tu veux prendre la place de quelqu'un, prends aussi son handicap et puis respect, c'est la base, quoi. Et moi, je crois que les gens avancent quand même dans ce bouger les lignes et dans ce regard qui change.
Et maintenant, nous allons retrouver la petite cuisine d'Ozone.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer donc une tarte à la banane. Les ingrédients sont les suivants. Une pâte feuilletée, une tablette de chocolat noir, une brique de crème liquide, 3 bananes, un sachet de noix de coco râpées. Donc tout cela représente un montant total de 5,45 €. Pour obtenir 8 parts de tarte au moins. Tout d'abord, faire cuire la pâte à blanc pendant 20 minutes à 180 degrés environ. Pendant ce temps, faire fondre le chocolat coupé en morceaux au micro-ondes. Le mélanger ensuite à la crème liquide. Couper la banane en rondelles. Étaler les rondelles uniformément au fond de la tarte. Recouvrir de chocolat. Ajouter la noix de coco râpée sur le dessus de la tarte, puis remettre la tarte au four. Alors, maintenant, nous allons préparer donc les différents ingrédients donc à mettre au micro-ondes. Donc, découper les morceaux
les bananes.
De chocolat.
Du chocolat, oui.
Du chocolat noir, afin donc de pouvoir les faire fondre au micro-ondes.
Ou un tour.
Encore. Pendant qu'une partie du chocolat disparaît dans la bouche de Didier. C'est bon, ça. Sans vouloir balancer, bien sûr. C'est
pourtant, bon, je le fais discrètement.
Qu'est-ce qu'on en fait ? On va le fondre dans le four.
On le fond dans le four pour combien de minutes ?
Jusqu'à ce que ça fonde.
Ça fond.
Ravi. Alors maintenant, nous allons prendre la pâte feuilletée. Donc il faut la faire cuire à blanc durant 20 minutes à 180 degrés environ. Ensuite, nous prenons donc une tablette de chocolat noir que nous aurons fait fondre auparavant.
Sans le faire cramer.
Sans le faire brûler, bien sûr. Mm-hmm. Donc au micro-ondes. Ensuite, nous prenons donc la brique de crème liquide.
C'est la crème de liquide. La crème de liquide pour faire la tarte. Et je mets dans le saladier. Et maintenant, on va tourner. Et voilà, on y va. On mélange bien. C'est parfait. Alors maintenant, ça va être les bananes à éplucher. Faut les couper en rondelles.
Ouais, nous épluchons donc les bananes.
En rondelles.
Afin de les couper en rondelles.
Et voilà.
C'est les dernières rondelles les plus difficiles.
C'est plus difficile, c'est plus dur.
Maintenant, nous allons donc étaler les bananes uniformément au fond de la tarte. Non, tu les étales. Ouais, te fatigue pas, maître. Ouais, mets tout.
Tu mets tout, hein?
Ouais, oui. Ouais, j'en mets partout. J'en mets partout. Hein.
Bien, ouais, de façon uniforme.
Et voilà. Bon, ça y est, j'ai fait les bananes. Maintenant, on met la sauce, là. On va mettre la sauce.
Oui, donc une fois que nous avons étalé les bananes,
oui.
On met donc le chocolat,
le
donc
chocolat
par-dessus.
Avec la banane, tout mélangé. J'étale partout.
À la truelle.
Voilà, comme du ciment.
Comme les grands maçons.
Voilà, comme du ciment.
Bon, c'est bon?
Ouais, c'est bon, ouais.
C'est bon ?
Ouais, Didier, tu vas la mettre au four ?
Non, d'abord, faut mettre la noix de coco.
Voilà.
Une fois que la noix de coco est bien étalée, nous allons remettre donc la tarte à chauffer dans le four. Alors, je rappelle que donc tout ceci donc représente donc un montant de 5,45 € et que cette tarte est faite pour 8 personnes au moins.
Avec amour.
Avec voilà. Amour.
Dans un village de 300 personnes, vivait un docteur qui était très occupé. Il travaillait beaucoup ces derniers temps, surtout ces 3 derniers mois, où une épidémie avait touché tout le village. Dans l'école et la crèche du village, les écoliers et les bébés étaient les plus touchés. Pour se rendre dans ce lieu, il avait besoin d'un tracteur. Eric essaya de tout son possible de soigner ses patients, mais il ne savait pas quelle était la cause de ce mal. Puis un jour, il trouva la cause de cette épidémie. C'était une grippe H5N9. Eric put guérir ses patients et tout rentra dans l'ordre.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là, hors du temps, que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, Ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Grand Corps Malade avec le morceau Sixième Sens. Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était d'une fois dans une prison de la banlieue d'Evreux. Un détenu dénommé Lambert purgeant sa peine. Le Narvalo, ancien médecin devenu gardien de prison, s'est reconverti en avocat pour la défense de son ami. Il est bien décidé à le faire ressortir par tous les moyens, même les plus inavouables. Le Narvalo rentre dans la cellule de son ami avec sa belle robe d'avocat violette.
Bonjour Lambert, comment allez-vous aujourd'hui ?
Mais qu'est-ce que vous foutez dans cette tenue ? Ils ont changé les uniformes des matons ?
Bah, c'est ma tenue d'avocat. J'ai décidé de vous représenter pour vous faire sortir d'ici. Concernant la robe et sa couleur, elle est un peu particulière. Je l'ai empruntée à un cardinal qui s'est retiré de désordre après son incarcération. Elle ne vous plaît pas, donc ma belle robe ? Veuillez trouver Maître Barjot. Veuillez m'appeler maintenant Maître Barjot. Que puis-je faire pour vous, mon ami ? Vos désirs seront réalité.
Mes désirs. Alors, pour la femme, c'est raté. Vous avez lamentablement échoué. Maintenant, faites-moi sortir d'ici au plus vite.
J'ai une idée. Échangeons nos vies. Faisons de la prison par alternance en semi-liberté.
Banco, c'est quoi le plan ?
Faisons une garde alternée de nos identités. Le lundi, je suis moi. Mardi, gardien de prison le matin et avocat l'après-midi. Et le mardi, nous sommes inversés. Je suis détenu à votre place. Comme ça, un jour sur deux, le soir, vous rentrez chez moi. Je vous laisse mon chien, ma femme, qui ne se rendra compte de rien, et mes 7 gosses. Comme cela, vous serez contents. Mais vous avez intérêt donc à me les rendre à peu près dans l'état où vous les aurez trouvés.
D'accord. Nous avons intérêt, dans ce cas, à faire un état des lieux d'entrée et de sortie.
Ça tombe bien. Je suis aussi notaire et huissier en présence. Et je vous fais demi-tarif sur la choucroute le vendredi.
Ah non, vendredi, c'est poisson. Choucroute de la mer, alors.
Non, ce n'est pas très, très valorisant pour le poisson. La choucroute, soyons sérieux. Ma famille, c'est d'abord Yuki, un caniche vélaire. La mère donc, n'a pas survécu. Ma femme, Natacha, 19 ans, je l'ai rencontrée par agence. Mes 7 enfants proviennent de différentes contrées, ramassées au gré donc, de mes pérégrinations et selon leurs compétences. Au fait, vous ai-je parlé donc, de la caution et des frais d'agence ?
Le Narvalo et Lambert semblent prêts à échanger leurs identités. Mais est-ce bien raisonnable ? La famille du Narvalo ne va-t-elle pas se rendre compte de la supercherie ? Et les détenus et les gardiens, ne vont-ils pas eux aussi se rendre compte de l'entourloupe ?
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Ici la Palombe, la tourterelle de la vie, qui rencontre un Jean de la Lune sur une place ébroïcienne. La robe était superbe. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Alors, la tourterelle, sur un câble perché, s'aimait d'amour tendre. Ce n'est pas France Télécom. Simplement, bonjour, bah oui. Mais t'es bien souvent sur ce banc, toi, là. Ben, qu'est-ce que tu veux ? Je suis un peu précaire. Je suis pas vicaire. Mais bon, la précarité, c'est un instant de la vie. Ça passe, ça vient, ça s'en va, et ça revient. C'est ainsi que Jean de la Lune dit toujours, dors toujours au clair.
Bonjour. Aujourd'hui, donc, nous retrouvons donc un deuxième interview concernant donc le handicap.
L'allocation adulte handicapé est sous le seuil de pauvreté. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'on est tombé mis à bras, mais ça, il faut le couper. On est tombé mis à bras.
Non, on ne va pas le couper.
Non, c'est intéressant.
Toutes les opinions sont bonnes à prendre.
Voilà, c'est ça.
Malheureusement, c'est l'injustice globale de notre pays. Mais c'est vrai que c'est pas normal. C'est déjà compliqué psychologiquement de vivre un handicap où on n'est pas toujours bien reconnu, bien suivi. Si en plus on doit vivre sous le seuil de pauvreté, c'est encore plus compliqué.
Je trouve pas ça normal. C'est sûr que la plupart des gens touchent peu de choses pour pouvoir vivre correctement. Et ils ont beaucoup de choses à payer eux-mêmes qui sont pas simples. Je la trouve beaucoup trop basse, c'est sûr. Je trouve que c'est honteux. Mais...
Pourquoi peut-on être gêné face au handicap ?
La peur de la différence. Je vois rien d'autre à rajouter. Pour moi, c'est ça.
C'est vrai.
Par rapport à nous, citoyens ou... Oui, c'est ça, ouais. Personnellement, de ma part, moi, je ne suis pas gêné de voir un handicapé, justement, nous, dans mon entreprise actuellement. Je ne sais pas si je peux le citer ou pas. Mais voilà, nous, on a beaucoup de personnes qui sont en cotorette, et puis ça marche très, très bien. Hein. Ils sont actifs, voilà, on a toujours besoin d'eux aussi. Hein. Ils sont pas handicapés. Voilà, hein, même ceux qui n'ont pas de bras ou pas de jambes, on arrive toujours à faire de l'ordinateur, à s'occuper, à faire pas mal de choses. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas gêné d'avoir des handicapés autour de moi.
Je pense que c'est les gens qui connaissent pas correctement le handicap et qui voient peut-être que le fauteuil roulant ou que la malformation, n'importe laquelle, et qui n'arrivent pas à voir l'individu qui est derrière. Mais je pense que... C'est pareil, j'ai du mal à le comprendre. Mais...
Je crois que c'est une idée préconçue. On n'a pas à être gêné pour un handicap. Ça peut arriver à tout le monde du jour au lendemain.
Mm-hmm.
Bien sûr.
Bien. Bon, bah, c'est tout.
Voilà, bah, je vous remercie. Bah, je vais faire mes courses.
La voix d'hippopotame peut à elle seule déclencher un orage. Mon strabisme, très divergent, c'est parce que je me demande tout le temps. Je vais dans quel sens ? Mon énorme nez... C'est parce que j'y vois pas grand-chose. Alors, pour me diriger, je sens. Si je mords tout le monde, ben, t'as vu ma tronche, il n'y a pas de quoi avoir la rage. Quand je me promène dans la savane, les hyènes me rendent hommage. Quand je marche dans la vase, les vers deviennent luisants. Quand je me balade dans la forêt, les putois répondent présents. Et le soir, quand je baille, les mouches me demandent davantage. Quand les militaires me voient, ils croient à une déclaration de guerre. Quand je croise des extraterrestres, ils se dépêchent de quitter la tenue. Quand un gamin me croise dans la rue, il dit à sa mère, « Quand je serai grand, c'est ça que je serai. » Puis un jour, une demoiselle me regarda et me souria. Je me dis que ce doit être une méprise. Mais la charmante libellule ne s'effraya pas et me chanta « De vous, je suis éprise. » Je me dis qu'elle est sûrement aliénée. Et tout ce que j'espère, c'est que sa folie durera.
Un texte de Stéphane. C'était un texte de Stéphane.
Texte de Stéphane.
Un corps corpusculaire, au son du corps, rencontre une coréenne dans un corbillard sur un billard.
Je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Yves Montand avec cette belle reprise de La vie en rose.
Dédicace à Isabelle, Madame Benjeloun, Madame Rizou et Madame Abers.
Comme à l'ordinaire, nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous. Si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast, nous vous invitons à vous rendre sur le site de Principe Actif. Vous pourrez également y laisser vos commentaires. Nous remercions Isabelle Bachelet, Karine Vira et Roland Vacogne pour leur intervention et le partage de leurs expériences. Merci à toute l'équipe d'Ozone Libre, qui n'est pas au complet aujourd'hui, donc de bonnes vacances quand même à tous ceux qui ne sont pas présents. Merci à vous, auditeurs, d'un côté et de l'autre des murs. Et nous vous retrouvons avec plaisir à notre prochaine émission le 31 mai.
Ozone Libre, à la bonne heure.
Ozone Libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone Libre.
Ozone Libre.
Ozone, une heure de liberté.